Notre invité est le coordinateur du pôle enquête de l'Observatoire international des prisons, François Besse, pour évoquer, nous l'avons fait tout à l'heure, ce 11e suicide depuis le début de l'année entre les murs de la prison de Fleury-Mérogis et le modèle des prisons françaises qui n'en finit pas d'être à bout de souffle, mais n'a toujours pas expiré. François Besse, il y avait eu donc un grand mouvement des surveillants de prison en début d'année, suite auquel le gouvernement avait fait des promesses, avait soumis un texte aux représentants syndicaux qui prévoyait plus de 1000 embauches supplémentaires d'ici 3 ans, une enveloppe de 30 millions d'euros d'indemnités, une grosse commande de menottes et de gilets pare-balles et une prise en charge spécifique pour les détenus dits radicalisés. Est-ce qu'on en a vu les premiers effets concrets sur place ?
Malheureusement, ces mesures qui sont des mesures exclusivement d'ordre sécuritaire, en tout cas, elles vont voir le jour ou elles ont commencé à voir le jour. Je dis malheureusement tout simplement parce que c'est pas ça qui va régler du tout la situation dans les prisons. On peut comprendre les difficultés des personnels, notamment face à l'engorgement et la surpopulation et les tensions qui existent, mais le problème de la prison, il doit être pris vraiment à bras-le-corps et surtout, il faut qu'il y ait une inversion complète de tendance, c'est-à-dire il faut interroger le sens de la peine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les magistrats font? Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on entasse, et la situation ne peut pas s'arranger.
Réfléchir au sens de la peine, c'était le but affiché de la réforme de la politique pénale annoncée en mars par Emmanuel Macron, lutter contre la surpopulation carcérale et redonner du sens à la peine. C'était ainsi qu'elle avait été formulée, avec plusieurs mesures qu'on peut rappeler, mais en tout cas, il y avait ce geste de bonne volonté, il y avait une compréhension de la part du gouvernement ?
Des annonces, effectivement, avec tout un volet qui est extrêmement intéressant sur le développement des alternatives, des mesures alternatives à la prison.
Dans
sur
quel
le,
cas ?
Sur le développement des aménagements de peine également, qui sont véritablement des leviers pour faire chuter la surpopulation. Rien sur la détention provisoire. Il y a quand même à l'heure actuelle en France plus de 30% des détenus qui sont en détention provisoire. Rien n'a été dit sur ce phénomène-là. Ça devrait être une mesure exceptionnelle. Dans la réalité, c'est de plus en plus appliqué et utilisé par les magistrats. Donc, un tiers des détenus ne sont pas concernés. Et puis d'autre part, effectivement, pour les très courtes peines, les annonces ont été faites de possibilités d'alternatives, pas de prononcé de peine de moins d'un mois. Un certain nombre de choses, mais si derrière, par exemple, pour les alternatives et les aménagements de peine, ne sont pas votés des budgets conséquents pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, pour les associations qui font de l'accueil et de l'accompagnement dehors, en milieu ouvert, ça restera un vœu pieux comme ça a pu l'être pour la réforme qui a été votée en 2014, menée par Christiane Taubira.
La réforme Taubira, elle n'a pas pu, en tout cas elle est souvent présentée comme un échec, c'est faute de moyens principalement ou faute de volonté ?
Il y a deux choses, c'est le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est faute de moyens essentiellement, donc ça empêche finalement d'appliquer des mesures et notamment ces aménagements de peine qui pourtant on le sait, sont beaucoup plus efficaces sur la récidive parce que les gens sont accompagnés et finalement s'insèrent beaucoup plus aisément. Ça c'est le premier point. Le deuxième c'est la volonté politique. Parce qu'il faut une impulsion, une véritable impulsion politique, puisqu'on peut regarder la réforme Taubira, elle prévoyait des mesures de probation, des choses comme ça. La mesure n'a quasiment jamais été appliquée.
Emmanuel Macron a promis, donc c'était en mars je crois, de créer 1500 postes supplémentaires de conseillers de réinsertion et de probation dont on peut rappeler le rôle, parce qu'on les cite pas très souvent quand on parle de la prison, mais ils ont un rôle essentiel dans ce dispositif que vous appelez de vos voeux.
Ils ont un rôle qui, à l'heure actuelle, se résume quand même à du contrôle, et de moins en moins d'accompagnement. Par exemple, les conseillers d'insertion et de probation qui travaillent en maison d'arrêt à l'heure actuelle expliquent qu'ils ont tellement de personnes dont ils doivent s'occuper, ça peut être 80, 100, 120 personnes qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc du coup, toutes les peines inférieures à 6 mois, par exemple, ne sont pas accompagnées, ne sont pas aménagées. Donc ça veut dire une peine de prison dans le désœuvrement le plus total, aucune préparation à la sortie et des gens qui sortent après ce temps mort finalement et sont voués à la récidive.
Emmanuel Macron avait aussi promis pendant sa campagne de construire 15 000 nouvelles places de prison. Il n'en est plus du tout question aujourd'hui.
Il a été finalement annoncé que ce serait 7000 places, mais on reste quand même dans un discours qui est de dire que la construction de prisons, c'est une manière de lutter contre la surpopulation. On nous sert ce bobard, hein, il faut le dire, depuis les années 80, avec des prisons qui ont été construites. On le voit d'ailleurs, il y a des courbes assez intéressantes depuis plus de 20 ans, le nombre de places de prison augmente sans arrêt, il y a des constructions, et le nombre de personnes incarcérées augmente. Et ce sont deux lignes qui se suivent finalement et qui ne se rencontrent jamais, c'est-à-dire la surpopulation n'est pas réglée, parce que le problème de l'exécution des peines et donc de la mise en prison n'est pas réglé.
Il y a quand même des projets entre guillemets immobiliers qui sont en cours d'exécution en ce moment, qui avaient été décidés il y a quelques années, avec beaucoup de communes qui refusent l'installation de prison chez eux. Mais c'est vrai qu'on a tendance à lire que ces communes ne veulent pas de ça chez eux, rejettent tout ça sur les communes voisines, etc. Mais quand on discute avec les élus, on sent aussi qu'il n'y a pas eu de réflexion au niveau de l'État ou des préfets sur où les installer, sur des terrains quand même à peu près adaptés, en fonction ou pas d'un bassin d'habitants. Enfin, est-ce qu'il y a eu, vous considérez qu'il y a eu une réflexion là-dessus?
Ben, il y a surtout une recherche de terrain dans des zones qui très souvent sont extrêmement occupées, donc où il y a finalement peu de place.
Après, ou marécageuse, ça dépend, c'est l'un
voilà,
ou l'autre.
Oui, c'est la prison de Orléans, prison neuve qui a été construite, elle a été construite dans une zone inondable et quelques mois après elle était vidée parce qu'elle était inondée. Mais le problème, je crois, il est là encore un problème de fond, parce que de toute façon, s'il est décidé que des prisons doivent être construites, après les préfets doivent identifier des terrains où c'est potentiellement faisable et c'est fait. Mais derrière tout ça, beaucoup d'élus quand même et beaucoup de part de la population manifeste parce qu'ils ne veulent pas la prison chez eux, mais globalement ils sont pour une politique extrêmement répressive, pour un durcissement, pour le fait qu'il faut mettre les gens en prison. Donc il y a un moment aussi où il faudrait un peu leur poser la question, c'est-à-dire que est-ce que c'est juste que vous la voulez pas à côté de chez vous, ou est-ce que c'est est-ce que la prison vous pose un problème plus global que ça. Et en général c'est vraiment plutôt des questions de tranquillité, de petite vie et de pas avoir ça chez soi.
Bon, avec aussi, et je le répète, mais des élus qui souvent disent que les préfets sont même pas venus les consulter avant d'annoncer que la construction de la prison serait faite chez eux. Je pense à Saint-Bonnet-les-Oules, par exemple. Bon, en tout cas, il y aurait beaucoup à en dire. Donc nous, on ne réfléchit plus, mais en tout cas, à construire de nouvelles prisons. Il y a des pays européens qui ferment des prisons. François Besse, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de détenus, parce qu'il n'y a plus de délits ou de crimes, ou parce qu'il y a une réflexion globale ?
Il y a d'abord eu une réflexion, quand même, généralement une réflexion globale. Alors
ça,
selon les
exemple,
pays, on a des situations différentes, donc on peut peut-être en parler. C'est-à-dire que, par exemple, les Pays-Bas, à l'heure actuelle, ils louent leur prison vide aux pays voisins, à l'Allemagne,
Belgique.
À la Belgique, etc., qui sont dans des états qui ont de la surpopulation. Ils ont réussi à vider. À notre connaissance, les Pays-Bas ne sont pas à feu et à sang. La criminalité et la délinquance baissent, mais c'est parce que d'autres types de réponses et d'autres types de mesures ont été mises en place.
Alors, je nuance juste pour les Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas, on sait que quand même 27 000 étrangers en situation irrégulière qui étaient dans les prisons ont été sortis des prisons en 2007 pour être conduits à la frontière, que les policiers sont incités à la politique du chiffre et donc ils se concentrent sur les petits délits qui ne sont pas passibles de prison plutôt que les grosses affaires. En tout cas, il n'y a pas que de bonnes raisons pour lesquelles les prisons des Pays-Bas sont vides.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement également une politique et un durcissement sécuritaire qui est, qui est constaté, c'est évident. Alors après, il faut regarder aussi les pays d'Europe du Nord, par exemple, qui là également ont fait chuter de manière vraiment importante leur nombre de personnes détenues par tout un tas de mesures, effectivement, de mesures alternatives, d'accompagnement social, de manière de purger la peine finalement en milieu ouvert, avec réinsertion, accompagnement. Le développement des prisons ouvertes également, qui sont des sas pour un retour vers la vie libre, on va dire. Et là également, ces pays ne sont pas, à feu et à sang. Il y a un troisième exemple qui peut être intéressant à citer, c'est justement parce que c'est une démarche qu'on a lancée. Je vous parlais de la Cour européenne tout à l'heure et des démarches qui ont été faites. L'Italie a été condamnée par la Cour européenne. Elle a été condamnée, il y a eu un arrêt pilote, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des saisines individuelles de personnes détenues sur des prisons localisées, de problèmes de surpopulation, de promiscuité, etc. Et en fait, la Cour européenne a regroupé toutes ces plaintes et a donc produit un arrêt pilote qui contraint qui a contraint l'Italie à modifier ses lois pour faire descendre le taux de détenus et donc faire cesser la surpopulation. Des mesures ont été prises et on a vu effectivement une baisse du nombre de détenus. Donc on espère véritablement obtenir ça par la Cour européenne avec les procédures qui ont été engagées pour la France, pour que là, tout d'un coup, l'État soit vraiment contraint d'appliquer des mesures qui feront chuter la surpopulation. Parce que là, à l'heure actuelle, quand on regarde un peu les années précédentes, il y a eu des lois votées, la loi pénitentiaire en 2009, la réforme Taubira, etc. Si on continue finalement de la même manière, on va se retrouver avec des lois qui seront intéressantes, qui seront votées, mais si elles ne sont pas appliquées, une situation qui va continuer à s'aggraver.
Est-ce qu'on peut même avancer des arguments économiques pour convaincre peut-être les gouvernements et les politiques d'aller un peu plus vite sur ces questions? Par exemple, le Pays-Bas, entre autres raisons avancées pour aujourd'hui ou motif pour expliquer que les prisons se soient un peu vidées, disent que il fallait faire des économies. Ils ont calculé ce que leur coûtait une journée de prison par rapport à une journée de probation. Et une journée de prison, ça coûte beaucoup plus cher.
Bien sûr, en France également, une journée de prison, ça oscille entre 100 et 400 euros, selon le type d'établissement, donc c'est énorme. Une journée en aménagement de peine, par exemple, du type du placement extérieur, c'est-à-dire accompagné hein, dans une structure, etc., c'est de l'ordre de 40 euros. Une journée de travail d'intérêt général, c'est plutôt de l'ordre de une douzaine d'euros. Donc on a véritablement là un argument économique, sachant qu'en plus, c'est beaucoup plus efficace. On sait que ce type de mesure, les gens étant accompagnés, bien sûr, débouchent sur plus facilement des sorties, on va dire, de la délinquance, et donc des retours à l'insertion ou à la réinsertion.
Bon, on est encore loin d'une réflexion sur la réhabilitation des prisons dont le principe de base serait la réhabilitation plutôt que la sanction, comme par exemple en Norvège avec ces prisons qu'on verrait absolument jamais en France, mais c'est vrai que ça fait même bizarre de voir ces images de chambres avec des écrans plats, des mini-frigos, des grandes fenêtres. Est-ce qu'il y a des études pour montrer que ça peut être efficace?
Oui, bien sûr, hein, tout à fait, puisque ce qui est moins concentrationnaire, c'est-à-dire ce qui est moins dans la contrainte, dans l'ultra-sécurité, etc., est de toute façon beaucoup plus efficace. On le sait, ça a été démontré.
Mais avec toujours l'argument que finalement, on sera mieux en prison que dehors.
Oui, ça c'est un argument qui je conseille à toutes les personnes qui tiennent cet argument-là de simplement rester chez eux et s'enfermer dans une pièce et ne pas pouvoir en sortir 22 heures tous les jours. Ils verront que même si c'est joli parce que c'est chez eux, etc., de toute façon ça devient très difficile, insupportable. C'est d'ailleurs un point, parce que c'est proposé par le gouvernement, le développement du bracelet électronique comme peine, c'est un point qui pose vraiment problème. C'est la prison chez soi. Et en fait, la prison chez soi, ça pose un certain nombre de questions. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui doit s'auto-surveiller et voir la famille qui va surveiller. Et puis, le problème du bracelet électronique, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher. Mais s'il n'est pas suivi d'accompagnement et de suivi des personnes, accompagnement dans l'insertion, la formation, etc., c'est juste une prison à domicile avec finalement le même manque d'efficacité que les autres types de mesures comme la prison.
Le slogan dans les pays scandinaves, c'est une bonne politique sociale et la meilleure politique pénale qui soit. Mais donc les magistrats ont joué le jeu de la réforme, ça passe aussi par eux.
Tout à fait. À l'heure actuelle, effectivement, ce qu'on voit, c'est quand on regarde la détention provisoire, quand on regarde le peu d'aménagement de peine, parce que dans certains endroits, le nombre d'aménagement de peine baisse. Par rapport au texte et ce qui pourrait être appliqué, on est vraiment bien en deçà. Et là, c'est un problème de la pratique des juges.
Merci beaucoup François Besse d'être venu dans nos studios pour parler de tout ça ce matin. Je rappelle que vous êtes coordinateur du pôle enquête de l'Observatoire international des prisons. Merci.
Merci à vous.